On lit donc dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, et on va relire à partir du verset 15. Nous avions vu en détail le verset 17, et ce matin, nous allons essayer de voir le verset 18. On relit donc à partir du verset 15. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, on pourrait traduire à nouveau ici par insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors je vais lire parce que même si on verra qu'un demi-verset ou un verset ce matin, on verra. Les verbes ensuite, à partir du verset 19, sont en fait au participe présent, entretenant-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Prions. Merci Seigneur de placer ce texte devant nous ce matin. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs et de pouvoir nous concentrer sur ta parole ce matin et te donner ainsi gloire et louange dans nos cœurs. Merci pour cette parole qui est une lumière sur notre sentier. Te donne toute la louange, Seigneur. Amen. En fait, on est toujours dans l'Épître aux Éphésiens et à partir du chapitre 4, hein, nous avons regardé que Paul nous parle de la marche digne du croyant se fait en toute humilité, se fait avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une marche d'humilité digne, une marche d'unité. À partir du verset 4 jusqu'au verset 16, on voit la marche dans l'église. À partir du verset 17, Paul nous avertit qu'on ne doit pas marcher comme les païens. C'était la coutume que nous avions auparavant. Mais à partir du verset 20, c'est de connaître Jésus-Christ, de se revêtir de Jésus-Christ pour une nouvelle conduite. Donc de marcher selon une nouvelle conduite. Et ça se voit à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Et puis à partir du chapitre 5, c'est là où nous sommes, Paul nous invite à marcher dans l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ, à marcher dans la lumière et à marcher dans la sagesse. Et c'est là où nous sommes rendus ce matin, à marcher dans la sagesse. On a déjà regardé ensemble ce que c'est que de marcher avec circonspection, donc avec sagesse. On est rendu en fait au troisième message. On a vu donc se conduire avec circonspection, c'est ça la marche de la sagesse, racheter le temps. Ne pas être inconsidéré, comprendre la volonté de Dieu. Et nous avons regardé ensemble que pour comprendre la volonté de Dieu, Dieu nous a laissé plusieurs éléments, notamment sa parole, les chrétiens mûrs, le bon sens sanctifié, les circonstances, la correction du Seigneur, le Saint-Esprit, la prière. Et tous ces éléments sont les moyens que Dieu nous a donnés pour comprendre sa parole. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul continue à nous exhorter de la même façon quelque part qu'il a commencé au verset 15 par des injonctions, parfois négatives, parfois positives. Voyez-vous, il établit un contraste dans le verset 8, on se dit, mais il parle de la plénitude du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, mais il commence, ne vous enivrez pas de vin. Et au verset 15, n'est-ce pas, prenez donc garde afin de vous conduire, non pas comme des insensés, ne soyez pas inconsidérés, donc il y a des injonctions positive et négative, et c'est vrai que dans la vie chrétienne, on a besoin d'avoir des vérités qui nous poussent de l'avant, et puis des mises en garde pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Et l'apôtre Paul utilise ici le même contraste, n'est-ce pas, à partir du verset 18, ne vous enivrez pas de vin, on est d'accord, n'est-ce pas, c'est une injonction négative, à quelque chose de très positif, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, ici, Paul nous dit, il nous invite à être remplis du Saint-Esprit. En fait, ce n'est pas Paul, c'est Dieu. Et ce n'est pas une option pour le croyant, ce n'est pas facultatif, c'est un impératif. La Bible dit, et c'est vraiment un impératif dans l'original, soyez rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est un commandement. Alors, la question que nous pose le Seigneur ce matin, c'est tout simplement, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que je marche selon l'Esprit ? Est-ce que j'ai une vie remplie du Saint-Esprit ? Alors, comment le savoir ? Mais dans la parole, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent quelqu'un qui marche par l'Esprit. On verra la prochaine fois que, par exemple, le résultat de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est de s'entretenir avec des psaumes et des hymnes et des cantiques, c'est de chanter, de célébrer de tout son cœur les louanges du Seigneur, c'est de rendre continuellement grâce à Dieu le Père, n'est-ce pas, en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà le résultat de quelqu'un rempli du Saint-Esprit, mais il y en a bien d'autres, n'est-ce pas? Mais dans le texte ici, ce sont les quatre fruits ou aspects de quelqu'un qui marche dans l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Qu'est-ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit? Et comment dois-je être rempli du Saint-Esprit? Comment Dieu veut que je sois rempli du Saint-Esprit? Alors, la Bible nous surprend parce qu'ici, Paul, encore une fois, fait un contraste. Mais si vous vous souvenez, je vous avais mentionné qu'au chapitre 5, Paul a déjà commencé un contraste en nous invitant à marcher dans l'amour. Et il y a en faisant le contraste avec l'amour selon le monde, qui est la débauche, la cupidité, qui est l'amour de l'argent, l'impudicité. Il y a deux façons d'aimer, selon Dieu, qui est le mot agapé, et selon le monde. Et Dieu nous invite à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Il y a un vrai amour chez le croyant, mais il pourrait y avoir aussi une façon d'aimer qui n'est pas de Dieu, qui est du monde, et même, je dirais, du diable, liée à des passions. Et puis, il y a la marche dans la lumière, en contraste avec la marche dans les ténèbres. Il y a la marche dans la sagesse, en contraste avec la marche en insensé. Il y a la marche dans la volonté de Dieu, et la marche de celui qui n'est pas conscient, qui ne marche pas soigneusement, pour vérifier si ce qu'il est en train de vivre est selon Dieu. Et Paul ajoute, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est un commandement. Comment ça se fait que Paul dit aux chrétiens, ne vous enivrez pas de vin? J'ose pas demander ici combien sont ceux qui ont déjà goûté à l'ivresse. La Bible dit ici, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. En fait, dans le contexte ici, il est vraisemblable que l'auteur, l'apôtre Paul, fait référence à une coutume qu'il y avait dans les temples païens de s'enivrer pour trouver une espèce d'extase. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont friands justement de produits, n'est-ce pas, qui amènent dans des expériences émotives, sensorielles, autres que la norme pour goûter à des choses un peu surnaturelles. Et c'était une coutume dans les temples païens que les gens s'enivraient pour mieux adorer les dieux, que Paul mentionne en Corinthiens les démons, le culte des démons. En tout cas, l'idée ici, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il est clair ici que le croyant est appelé à ne pas s'enivrer. On est d'accord ? Pourquoi ? Qu'est-ce que dit la Bible au sujet du vin ? C'est intéressant. La Bible ne condamne pas l'usage du vin, elle le tolère, mais la Bible, les Écritures en condamnent l'abus. Par exemple, Paul dit à Timothée, fais un peu d'usage de vin à cause de tes fréquentes indispositions d'estomac. Bon, avec moi, ça ne marche pas. Quand j'ai des indispositions d'estomac et que je bois du vin, ça s'empire. Mais à l'époque, je ne sais pas, c'était comme ça. Ce n'est peut-être pas un vin comme le nôtre. Ceci dit, peut-être qu'il était de meilleure qualité, le vin, à l'époque de Paul. Hein, on ne sait pas. Il n'y avait pas de conservateur et tous ces produits qu'on y met dedans, de soufre et autres. D'accord ? On se comprend. Et même Jésus, on l'a vu ensemble. Vous vous souvenez quand on a étudié l'évangile de Jean, dans les miracles de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a transformé l'eau en vin, le label divin. Il n'y a jamais eu sur la terre un vin meilleur que celui que Jésus a produit, j'en suis sûr. Il a fait ce cadeau merveilleux, n'est-ce pas, aux noces de Cana. Il est arrivé avec ses amis, ils ont un peu été en surnombre, c'est marrant ça. Hein, et puis il a dit, bon, il a fait un merveilleux cadeau, je ne sais plus combien on avait dit, 400 ou 500 litres de vin. Alors, il y avait un cadeau qu'il pouvait vendre, enfin, je ne sais pas, utiliser en tout cas, et c'était un meilleur vin que le précédent. Mais la Bible dit que l'excès de boire est un péché. Je vous lis deux ou trois textes. Pour commencer, deux textes dans l'Ancien Testament. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui devient esclave de l'alcool? Il peut perdre travail, il peut perdre famille et certainement la santé. L'ivrognerie est un excès que la Bible condamne. Un attachement à l'alcool est un péché parce que c'est un péché contre le corps. Et pour le croyant, d'autant plus que son corps est devenu, quoi ? Le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de goûter à des choses qui nous feraient exalter dans des expériences extraordinaires. Nous avons, au contraire, besoin d'être remplis, non pas de vin, mais du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul en parle. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et Ésaïe continue après les proverbes. Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui bien avant toute la nuit sont échauffés par le vin. Alors je peux vous dire que dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux passages qui mettent, qui avertissent et qui éclairent, n'est-ce pas, sur l'habitude du vin, les dangers de cette habitude dans l'excès qui aboutit à la débauche. Les enfants d'Israël, alors que Moïse était sur la montagne en train de recevoir les tables, n'est-ce pas, des 10 commandements, la Bible dit que le peuple est tombé dans la débauche. Dans toute espèce de péché, n'est-ce pas, lié à toute espèce d'excès. Donc l'excès est un péché. Et moi j'ai envie de dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. La condition d'être rempli du Saint-Esprit, c'est évidemment de ne pas être ivre, n'est-ce pas ? On va voir pourquoi l'apôtre Paul compare l'ivresse avec la plénitude du Saint-Esprit, mais c'est d'éviter tout excès. On peut faire un excès, bon en plus excès de vitesse, mais on peut faire un excès de nourriture, on peut faire un excès de boisson, on peut faire un excès de sport, on peut faire un excès de travail, on peut faire un excès, vous avez compris ? On peut faire toutes sortes d'excès qui finalement nous empêchent d'être posés devant Dieu pour recevoir cette plénitude et vivre continuellement dans cette plénitude que Dieu veut nous accorder. Alors, première question que Dieu nous pose ce matin, quel est l'excès dans notre vie qui est peut-être un empêchement à la plénitude de Christ ? Qu'est-ce qui empêche que Dieu me remplisse aujourd'hui ? L'apôtre Pierre met aussi un avertissement, les chrétiens, sur le danger de l'ivrognerie. C'est ainsi en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger du bois et les idolâtries criminelles. Tous ces péchés-là sont mentionnés comme des habitudes païennes qui devraient plus exister dans la vie du croyant. Qui plus est, Paul ajoute en Corinthiens, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc le croyant est appelé à s'éloigner le plus possible de l'alcool. Il y a des milieux chrétiens, des endroits géographiques dans le monde où l'Église de Christ se développe et existe, qui font complètement abstinence de l'alcool. Alors quand vous venez en France et vous êtes missionnaire, vous vous êtes confronté immédiatement à l'idée de boire ou non de l'alcool. Alors il y a une voie de sagesse à avoir. Une chose est certaine, c'est que le chrétien doit régler sa vie pour ne éviter de tomber dans l'excès. C'est la règle générale. On est d'accord ? Je vais vous montrer pourquoi le péché, l'ivrognerie, est un péché qui ravage l'esprit et le corps. J'ai pris quelques statistiques au sujet de l'alcoolisme en France. Excusez, mais c'est une réalité. Selon l'INSEE, c'est sérieux l'INSEE, hein, le chiffre d'affaires de la filière alcool française représentait 15,8 milliards d'euros en 2007. 7,4 milliards d'euros pour le secteur des vins, champagne et mousseux. 4,8 milliards d'euros pour les spiritueux, whisky, rhum, etc. Et les eaux de vie naturelle, cognac, armagnac. J'espère que je ne donne pas goût à quelqu'un. 2,7 milliards d'euros pour la brasserie. Donc en 2008, les statistiques françaises disent que les ménages français ont consacré en 2008 15 milliards d'euros, soit 1% de leur budget, ou encore 8,6% du budget alimentation aux boissons alcooliques. On picole pas mal en France quand même, hein. Excusez. Il y a quand même à être prudent. L'ivresse est-elle un comportement répandu ? Toujours les statistiques. Plus d'une personne interrogée sur 7, soit 14%, déclare avoir été ivre dans les 12 derniers mois. Les hommes étant environ 3 fois plus nombreux que les femmes à être dans ce cas. 22% contre 8%. Mesdames, félicitations. Enfin, pas vous, parce que ce n'est pas votre cas. Combien y a-t-il de consommateurs à risque ? On estime que 54% des hommes et 21% des femmes, 35% au total, ont de façon occasionnelle ou régulière une consommation d'alcool à risque, c'est-à-dire qui peut mettre leur santé en danger à court ou long terme. Alors j'ai regardé ce matin les statistiques au sujet de l'alcool et des jeunes. Il semble que les jeunes boivent moins que les adultes, mais quand ils boivent vraiment. Figurez-vous qu'il y a 25% de jeunes entre 15 et 19 qui confessent avoir été ivres une fois dans l'année. 35% des jeunes entre 20 et 25 ans également qui confessent avoir été ivres une fois au moins dans l'année. C'est vrai que quand mes enfants étaient en prépa, les deux, ils nous signalaient que dans les week-ends, vu que du lundi matin très tôt jusqu'au samedi après-midi, c'était une école difficile, n'est-ce pas ? Mais les week-ends, les samedis soirs, ils étaient vraiment, il y en a qui se défoulaient, comme disent les jeunes, qui pétaient les plombs sous l'effet de l'alcool, mais terrible, terrible. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu dans une rencontre de jeunes qui avait été planifiée sans d'alcool, bon, par un lycée, et puis des jeunes ont amené l'alcool. Le jeune homme n'avait jamais vu, jamais bu de sa vie. Et il a mélangé toutes sortes d'alcool. Alors, il est tombé dans un coma, n'est-ce pas, éthylique, et c'est le médecin et tout ça qui est venu le chercher. Il y a un vrai danger que provoque l'alcool sur le corps et l'esprit. On estime que chaque année, et je termine avec ça, d'accord, au niveau des statistiques, on estime, le message n'est pas terminé, je commence à peine, hein, on estime que chaque année en France, 37 000 décès sont liés à l'alcool, parmi lesquels 10 000 décès par cancer, 6 900 décès par cirrhose, 3 000 décès par psychose et dépendance alcoolique et 2 000 décès par accident de la route. Au total, l'alcool est à l'origine, tenez-vous bien, de 14% des décès chez les hommes et de 3% chez les femmes. Est-ce qu'on est convaincu que l'alcool tue ? Même si on dit l'alcool tue mais pas le vin, c'est un mensonge, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des alcooliques. C'est terrible. Un homme qui devient alcoolique dans un foyer, j'ai eu l'occasion de conseiller des couples où l'homme était devenu ivrogne et à tel point que la violence était pain quotidien à la maison vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis des enfants. Donc quand la Bible dit « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche », la Bible a raison, n'est-ce pas ? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. D'ailleurs, essayons d'établir certaines normes de sagesse et bon sens, que nous donnent les Écritures d'ailleurs, pour savoir avoir un équilibre par rapport à l'usage de l'alcool pour nous, les enfants de Dieu. On y va ? Alors là, je vous demande de tourner dans vos Bibles en Proverbe 23. Proverbe 23. « et versets 29 à 35. Proverbe 23, 29 à 35. Nous lisons le texte. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges? Vous vous doutez un peu de quoi il s'agit ici. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. L'idée ici, c'est que l'habitude, n'est-ce pas, peut être toute simple au début, mais devenir une telle habitude qui devient un esclavage. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voyez-vous, suite au vin, qu'est-ce que la Bible dit? Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Autrement dit, l'habitude assoiffe encore plus le goût et rend esclave d'un péché, n'est-ce pas, qui affecte le mental, l'esprit et le corps. Alors, que dit la Bible au sujet de notre façon de vivre? Il y a un principe que je trouve en 1 Corinthiens, chapitre 6 et verset 12, qui dit ceci. Vous le connaissez, mais c'est une règle, n'est-ce pas, un fil à plomb en quelque sorte. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je me souviens d'un homme à Québec qui s'appelait M. Tremblay. Il y a beaucoup de Tremblay au Québec. Mais enfin, vous ne le connaissez pas. M. Tremblay, il y en a tellement, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Et un homme qui se convertit. Qui se convertit, gloire à Dieu, sa femme s'est convertie après, sa fille, son jeune, c'était merveilleux de voir le fruit de chez cet homme-là. C'était un commercial, mais il avait une mauvaise habitude. Tous les jours, il buvait sa 24. Vous savez ce que c'est la 24? C'est pas une marque de bière, c'est juste un paquet de 24 bières. Parce qu'au Québec, vous pouvez acheter la bière... Oui, vous pouvez acheter la bière en 6, un pack de 6, un pack de 12 et 24. Mais tous les jours, 24 bières. Bon, il faut dire que son ventre... Bon, je ne dis pas que si vous avez le ventre rond, vous buvez de la bière. Hein, mais il faut dire que les 24 bières commençaient à surgir un peu dans certaines formes, n'est-ce pas? Bon. Ceci dit, cet homme-là, en lisant l'Ancien Testament, il s'est aperçu que Dieu est un Dieu de toute délivrance, qu'avait sorti Israël du pays d'Égypte, de l'esclavage. Et dans son lit... Il a pris conscience que Dieu voulait le délivrer de l'alcool. Et ce soir-là, il nous a confessé, il a témoigné à l'église. Il a dit, Seigneur, à partir de ce soir, je ne bois plus. Aide-moi. Savez-vous quoi? Que cet homme a arrêté de boire du jour au lendemain. Alors, il y a des fois où c'est plus difficile. On raconte l'histoire d'un homme qui s'était converti, qui était alcoolique, et donc qui était tenté, parce qu'en allant à son travail, il passait tous les jours devant le café où il avait l'habitude de boire. Vous savez, à Paris... notre frère Alain Choiquet aimait bien dire les Parisiens, boulot, métro, dodo. Puis il avait rajouté boulot, métro, bistrot, dodo. Hein, bistrot, dodo. Alors il allait au bistrot boire, il avait cette habitude-là. Et un frère intelligent, plein d'amour, avait dit, écoute, je sais quel est ton problème, donc je vais t'accompagner tous les matins et le soir. Donc il a pris le temps de l'accompagner jusqu'à ce que le frère dise, ben non, je n'ai plus envie d'entrer dans le café, je n'ai plus besoin d'y aller. Et donc, le frère un jour lui a dit, ben voilà, maintenant c'est ton chemin tout seul. Et il a arrêté donc d'être tenté d'aller au café. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Un autre aspect... qu'on doit considérer face à l'alcool. Est-ce qu'on doit boire de l'alcool? Quand? Combien? Comment? Alors, ça se trouve en Romains 14, 13. C'est un principe de témoignage envers les autres. Il est écrit, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Je répète, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je me souviendrai toute ma vie. Je vais vous raconter une anecdote. On a eu une réunion de notre mission, enfin au moins européenne, on va dire, à Berlin. Et là, il y avait Dr. Cook. Dr. Cook, canadien. Hein? Dr. Cook, un homme qui a été longtemps président de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada. Et il a vu la destruction du foyer de ses parents par l'alcool. Et c'est un homme qui s'est engagé à une abstinence totale d'alcool et qui croit ferme qu'un croyant ne devrait jamais boire d'alcool pour ne pas éventuellement tomber dans le piège de l'alcoolisme et ne jamais être une occasion de chute envers quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un qui a été esclave de l'alcool, il suffit, paraît-il, de très peu pour recommencer et retrouver la mauvaise habitude. Alors, Dr. Cook était au restaurant, on était ensemble, j'étais juste en face de lui, puis à côté, il y avait un bon Allemand, bien rondouillé, excusez-moi, mais c'était ça. Alors, chacun commandait, et il arrivait le moment, il fallait commander le breuvage, comme disent les Québécois, la boisson. Alors, l'Allemand, lui, tout simplement, il a commandé 1,5 litre de bière. Alors, c'était une chope énorme, n'est-ce pas ? Et moi, j'étais à côté. Je dois confesser que, comme le repas s'apprêtait bien à une bière, j'avais envie quand même, moi aussi, d'une petite bière. Mais quand j'ai vu la grande quantité, et connaissant le docteur Cook qui était juste en face, si vous aviez vu la tête de ce cher frère, mais c'était vraiment une occasion de chute pour lui. Il était là. J'ai vu. Alors, évidemment, je me suis abstenu. J'ai pris du Coca-Cola pour éviter d'être une occasion de chute. Mais vous savez, la meilleure façon de ne jamais être une occasion de chute, c'est de ne jamais boire. Ça a été une conviction personnelle, alors je ne dis pas que c'est une loi, hein. Ça a été une conviction personnelle pendant 14 ans au Canada. J'ai jamais utilisé l'alcool au Canada. Parce que, peut-être une fois, mon père était en visite, on a acheté une bouteille de vin, d'ailleurs qu'on a versé dans l'évier, parce qu'à ce moment-là, le vin était horrible au Québec. Bon, ça a changé, ils ont maintenant le marchand des spiritueux. Vous devez aller là pour acheter du vin. Alors certains l'appellent les marchands des voleurs parce que c'est très cher au Québec le vin. Mais ceci dit, on peut être amené dans des situations à faire abstinence totale de vin. C'est pour ça, par exemple, la table du Seigneur. Bon, je fais un peu détendu ce matin, si vous voulez bien, mais c'est pour ça que dans notre église, par exemple, la table du Seigneur, on n'a pas d'alcool. Parce qu'il se peut que quelqu'un se soit engagé à une abstinence totale. Je me souviens d'une jeune missionnaire qui s'était engagée avec la croix bleue d'une abstinence totale d'alcool et qui, dans une église en France, a pris la table du Seigneur, s'est aperçue qu'elle avait pris de l'alcool. Bon, il ne faut pas non plus être... ce n'est pas une loi. Mais en tout cas, le principe ici, retenons-le plus que pour le vin, c'est ne pas être une occasion de chute envers quelqu'un d'autre. Et c'est confirmé en 1 Corinthiens 8, verset 9, je vous le lis rapidement. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Alors je vais vous raconter une anecdote, puisque je n'aurai pas le temps de façon d'arriver la deuxième partie du verset. C'est M. Choquet qui m'a raconté cette histoire. Vous êtes prêts? Bon, ça me vient à l'esprit, mais ça va nous détendre un petit peu ce matin. Alain Choquet voyageait beaucoup. Et une fois, il est allé en Martinique. Alors vous allez me confirmer. Il est allé en Martinique et donc, le pasteur, vu qu'il était avec sa femme, il a dit à Alain, à propos de Jeanne, ce serait mieux que ta femme ne porte pas de bijoux, parce que chez nous, dans les églises, les femmes ne portent pas de bijoux. Bon. Ça l'a un peu étonné, donc de toute façon, elle était avertie, puis qui connaît Jeanne Choquet connaît que, n'est-ce pas, c'est une dame très modeste, qui n'a pas une apparence, n'est-ce pas, mondaine, avec des bijoux, etc., pour se mettre en évidence. Et donc, bon, il descend de l'avion, on lui explique cela, il est dans sa première réunion, et là, il prêche, au début de la réunion, je veux dire, il y a des chants, etc., puis le pasteur se tourne vers Alain, il lui dit, écoute, c'est une immense église, il y avait 200 ou 300 personnes, il dit, écoute, ce soir, il y a 35 femmes inconverties dans la salle. Alors, il dit, waouh, ce pasteur, il a du discernement, quand même. Alors, il prêche de tout son cœur. Et à la fin, il y a des gens qui se lèvent, mais il y avait des femmes et des hommes. Alors, il dit, tiens, le pasteur, il n'avait pas vu les hommes aussi qui avaient besoin du Seigneur. Et à la fin, vu qu'il partage avec le pasteur dans un moment de convivialité, il a dit, mais comment avez-vous pu savoir qu'il y avait 35 femmes inconverties et vous n'avez pas parlé des hommes, mais comment vous avez calculé? Ben, c'est simple, chez nous en Martinique, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai Stéphane, les femmes portent toutes, les femmes chrétiennes portent toutes des cheveux longs. Parce que les cheveux courts, c'est considéré comme étant la chevelure d'une prostituée. Donc toutes les femmes chrétiennes ont l'habitude de porter les cheveux longs. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Alors le pasteur avait compté tous les cheveux courts, n'est-ce pas? Il dit, voilà. C'est pour montrer des fois dans les cultures, n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez des cheveux courts, ben, laissez-les pousser. Non, c'est pas grave. Mais c'est pour montrer que dans les cultures, il y a parfois des éthiques différentes. Et Alain Chouaquet racontait une blague aussi. J'ai presque terminé le message. Il raconte une blague en disant, voilà, c'est l'histoire en Hollande. Je vais offenser personne, c'est bon, parce qu'il y a des Hollandais parmi nous. Il racontait l'histoire d'un monsieur qui est bien assis dans son église, et là, il y a une dame qui arrive en plein milieu du message du prédicateur. La dame s'avance, et avec ses grands talons, puis une petite allure quand même mondaine, bien fardée, beaucoup de bijoux, enfin bon, tout ce qui lui pensait que ce n'était pas l'aspect d'une chrétienne, sanctifiée, disons. Elle est là, le pasteur prêche, il est un peu perturbé, le pasteur, cette dame quand même, elle prend un peu de place dans l'église, mais bon, elle s'assoit finalement, mais quand même, le pasteur est un peu troublé, il se reprend, la Bible, tout ça, est devant lui. Donc, et puis, finalement, à la fin du message, le frère bien sanctifié va voir le pasteur, il dit, écoutez, frère, je suis vraiment désolé. C'est terrible, cette femme qui est rentrée là, au milieu du culte, en plein milieu de votre message. Puis vous avez vu sa tenue, c'est terrible ça. Le monde est entré dans l'église. Alors il se sépare avec le pasteur, il rentre chez lui, il cuit le rôti. Vous savez, les chrétiens ont toujours des bons repas le dimanche à midi, on fête le Seigneur. C'est la poule aux peaux chrétienne d'Henri IV. Et donc il se réjouit, tout ça, puis tout d'un coup, bon, là il a bien mangé. C'est le moment du dessert, et là, il sort son cigare. Alors, il sort son gros cigare. Mais quand même, il repense à cette femme, c'est terrible. Cette femme qui est entrée dans l'église au milieu d'un message d'un prédicateur, toute fardée, toute vêtue à la mondaine. Il est tellement bouleversé qu'il pleure. Et là, ses larmes coulent le long de son cigare. Il arrive aux cendres qui tombent dans son café plein de rhum. C'est pour montrer des fois que les éthiques chrétiennes, n'est-ce pas, varient d'un pays à l'autre. Alors, ne nous jugeons pas les uns les autres, mais soyons ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une joie de faire les choses, non pas d'être sous une loi, mais de faire tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et si il existe le moindre doute dans l'esprit du chrétien, la Bible dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Soyons sages d'être sensibles à la vie de l'esprit en nous pour nous éviter de tomber dans des excès. Je dois terminer. J'ai raconté une anecdote là, mais ce n'était pas prévu. Hein. Je dois terminer parce que avant de prêcher la prochaine fois, soyez remplis du Saint-Esprit, ce qui serait bien que je prenne tout le temps nécessaire. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Paul, pour terminer, fait cette analogie? Il parle de l'ivresse et puis de la plénitude du Saint-Esprit. C'est même une comparaison qui peut être choquante quand on lit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Pourquoi Paul dit que je ne dois pas m'enivrer de vin? Je comprends, mais pourquoi après il dit juste, je dois être rempli du Saint-Esprit? Alors, je vous lis ce que j'ai noté. Dans les deux cas, on va faire d'abord une comparaison pour voir les similarités. Dans les deux cas, la personne se trouve sous une puissance qui échappe à son contrôle. Dans le premier cas, il s'agit de la puissance intoxicante de l'alcool. Hein. Certains liqueurs sont appelés d'ailleurs des spiritueux. Dans le second, c'est la puissance de l'Esprit. Donc, l'analogie que fait Paul, qui contrôle en fait? À un moment donné, le vin peut contrôler une personne à tel point qu'elle perd le contrôle des effets de l'alcool dans sa tête et par ses actions et par ses paroles et ses pensées, elle a perdu contrôle. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, en quelque sorte, lui aussi perd contrôle, sauf qu'il est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul fait une analogie. L'ivresse amène l'homme à perdre contrôle, la plénitude du Saint-Esprit amène le croyant quelque part à perdre le contrôle, sauf qu'il est quand même contrôlé par le Saint-Esprit, ce qui est mieux que d'être contrôlé par l'alcool, on s'entend. Dans les deux états, la personne est fervente. Au jour de la Pentecôte, on s'est mépris entre la ferveur produite par l'Esprit et celle produite par du vin doux. Vous savez, quand le Seigneur est venu le jour de la Pentecôte par le Saint-Esprit, ils ont dit ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. C'est pas qu'ils avaient bu, ils étaient exaltés par la puissance du Saint-Esprit. Dans les deux cas, encore une autre similarité, dans les deux cas, la marche de la personne en est affectée. Vous avez déjà vu quelqu'un ivre marcher dans la rue ? Moi, je me souviens de quelqu'un que j'ai vu, il s'accrochait à tout ce qui pouvait s'accrocher, voiture, arbre, un déséquilibre physique total. Par contre, la marche du croyant, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, est affectée dans l'ordre moral de ce qu'il vit. C'est toute une marche différente. Alors, similarité, le contrôle, la ferveur et l'aspect physique. On est d'accord ? Puis la différence. Mais la différence, c'est que l'ivresse produit la dissipation, la débauche. Le mot grec ici pour la débauche n'est pas le mot porneia, entre parenthèses, mais ça peut être traduit par vie dissolue, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est jamais le cas quand on est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'il va tomber dans la débauche ? Non, par contre, l'ivresse peut amener à la débauche. Merci. En état d'ivresse, on perd le maîtrise de soi, mais le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Un croyant rempli de l'esprit n'est jamais hors de lui jusqu'à ne plus pouvoir se maîtriser. J'ai fait rire quelqu'un hier, j'ai raconté, envoyé une deux chevaux, je pense que c'était Touquet Fans, on sortait du fameux match de basket, on voit une deux chevaux. J'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit, moi, je cultive la maîtrise de soi. Vous savez ce que c'est qu'une deux chevaux ? Moi, j'en ai une quand j'étais étudiant, avec le vent en arrière, pas en avant évidemment, en arrière. Et en pente, on arrivait à peu près à 100 km/h. C'était la seule chance de doubler quoi que ce soit qu'il y avait sur la route. Vous savez pas ce qu'il m'a dit ce jeune homme ? Il m'a dit, moi maintenant, je cultive la maîtrise de soi. J'ai mis une cale sous l'accélérateur de ma deux chevaux pour pas aller trop loin. Je me suis dit, ceux qui le suivent doivent plutôt tempester. Maîtrise de soi. Mais on ne peut pas se maîtriser. Même si Platon disait la plus belle vertu, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui doit être fait par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est en état d'ivresse, il perd complètement la maîtrise de soi. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il garde la maîtrise de soi. Et j'aimerais ajouter ceci pour terminer. Les esprits des prophètes sont toujours soumis aux prophètes. Quelqu'un qui veut faire une expérience. Et il y a des gens qui veulent, soi-disant, pour être remplis du Saint-Esprit, on en parlera une prochaine fois, n'est-ce pas, goûter à quelque chose qui les exalte, qui les pousse vers des nouvelles langues, pour être franc et vrai, ou des visions, je suis très prudent avec cela. Parce que Dieu reste au contrôle. Moi, j'ai vu des gens tomber en transe. Je me souviens, mon fils, alors qu'il était à l'école biblique, on l'a amené dans un milieu... Et pour une expérience de visite d'une autre église. Puis il est tombé dans une église où il a vu des gens tomber en transe. Mais ça l'a traumatisé. Il m'a appelé, il dit, papa, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit, j'en pense que. On doit être prudent. Le Saint-Esprit est au contrôle. Combien nous pouvons louer le Seigneur ? Qu'on n'est plus sous l'effet des excès dans lesquels on pouvait tomber en tant que païen, mais on est maintenant sous l'effet d'un nouvel excès. Une plénitude qui nous dépasse. La plénitude du Saint-Esprit qui veut remplir nos cœurs une fois vidés, certes, de la présence de Christ. Car le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? C'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Père céleste, merci de nous avoir conduits jusque-là. Merci de nous aider dans nos vies à bien régler nos vies, nos pensées, nos cœurs, nos attitudes, nos habitudes. Seigneur, s'il y avait ce matin quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, qui est peut-être dépendant d'une mauvaise habitude, je prie, Père, qu'il se tourne vers toi pour découvrir la délivrance. Je prie aussi, Seigneur, que tu nous gardes en tant qu'enfants de Dieu des excès qui pourraient nous éloigner de toi et ne pas disposer nos cœurs à la plénitude du Saint-Esprit. Nous confessons, Seigneur, notre misère, Nous confessons, Seigneur, nos difficultés. Nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses. Car tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis nos esprits. Remplis nos pensées de ta présence. Et garde-nous de tout excès, afin que nous puissions continuer à marcher pas à pas dans les voies de la sagesse. Au nom de Christ. Amen.